Bonjour, bienvenue à Radio Linguistica ce mardi après-midi. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Rudy Locke, professeur à l'Université de Lille en France et responsable du master de traduction spécialisée multilingue qui a attiré l'attention du public un peu spécialisé, mais j'en fais partie manifestement, sur l'utilité à des fins professionnelles des médias sociaux pour la profession de traducteur. Alors, normalement, on imagine, ou parfois on entend les universitaires relativement critiques ou prudents à l'égard de ces médias sociaux, mais ce n'est pas votre cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, vous avez une approche des plus ouvertes à cet outil?
Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, oui, moi je suis assez convaincu par le fait qu'il faille former les futurs professionnels de la traduction à une utilisation professionnelle des réseaux sociaux et des médias sociaux. Et ça vient en fait tout simplement de mon expérience personnelle. C'est-à-dire, je suis personnellement un grand utilisateur des réseaux sociaux. J'ai un certain nombre de comptes sur différentes plateformes. Et j'ai pu constater qu'il y avait une très forte présence de professionnels de la traduction, très clairement. Beaucoup de traducteurs et de traductrices indépendants sont présents sur les réseaux sociaux et on apprend énormément de choses parce qu'ils communiquent beaucoup, ils communiquent beaucoup sur la profession, sur son évolution. Donc on a comme ça une sorte de fenêtre un petit peu sur leur travail. Et vraiment, c'est très, très enrichissant et ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter. Et on constate aussi que les grandes agences de traduction, mais aussi les éditeurs de logiciels de traduction assistée par ordinateur, par exemple, sont également très présents sur les réseaux sociaux. Donc en termes d'information, les réseaux sociaux sont vraiment devenus un endroit privilégié puisque l'information vous arrive directement et on peut vraiment comme ça se tenir informé de l'évolution du marché, des nouveautés du marché, de l'évolution technologique, de l'apparition de certains outils. Donc on peut apprendre énormément de choses et donc à partir de ce constat personnel, je me suis dit qu'il fallait absolument que les étudiants, du coup, soient formés à cette utilisation et à cette présence, en fait, professionnelle sur les réseaux sociaux. Alors, on a mis ça en place à l'Université de Lille. On est évidemment loin d'être les seuls, hein. C'est désormais une compétence, en fait, qui a été intégrée dans le référentiel de compétences du réseau EMT, donc European Masters in Translation, de la direction générale de la Commission européenne. Désormais, c'est une des 35 compétences qui sont listées dans ce référentiel. C'est la compétence numéro 24 qui dit que tout étudiant diplômé, lorsqu'il intègre le marché, devrait avoir une maîtrise professionnelle. Alors, des réseaux sociaux, médias sociaux, en anglais c'est social media, il n'y a qu'un terme. En français, on a deux termes, il y a les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont les plateformes du type Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ce qu'on appelle médias sociaux en français, ce sont plutôt les blogs, par exemple. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de former à une utilisation professionnelle des deux. Et ça part du constat que les professionnels de la traduction sont en fait très présent en ligne et que donc une bonne formation en traduction devrait pouvoir au minimum les sensibiliser les étudiants à ces questions-là et à développer ce qu'on appelle l'e-réputation, donc le E, le préfixe de électronique, c'est-à-dire leur réputation en ligne, leur réputation sur le web, c'est-à-dire l'image qu'ils renvoient, une image la plus professionnelle possible, à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi leur présence sur des blogs, par exemple.
D'accord. Alors, moi, j'ai pris connaissance d'un travail que vous avez fourni au-delà de ce cadre de référence ou ce référentiel du Master européen de traduction. Je traduis ça en français. Vous avez en fait mené une enquête en ligne et vous avez publié les résultats sur le blog du réseau EMT afin de mieux connaître les pratiques des traducteurs. Alors, pourquoi ce projet? Et puis, dites-nous un petit peu quelles ont été les conclusions essentielles. Qui a répondu? Qu'est-ce que vous en avez déduit?
Alors, j'ai souhaité mener une petite enquête justement pour avoir vraiment des réponses concrètes aux questions dans le monde de la traduction, du côté des traducteurs et des traductrices, qui est présent en ligne, sur quel type de réseau, parce qu'il y a différents comptes et on a des surprises, parce qu'il y a les comptes, les plateformes professionnelles très, très connues comme LinkedIn, mais on se rend compte que les traducteurs sont aussi très présents sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur Instagram, par exemple. Ça peut surprendre un petit peu, mais je voulais vraiment donc avoir c'est une idée concrète de où se trouvaient les traducteurs sur les réseaux sociaux. Je voulais également savoir ce qu'ils venaient chercher, avec quels objectifs ils ouvraient des comptes sur les réseaux sociaux. Et au-delà des objectifs, qu'est-ce qu'ils obtenaient finalement au final par rapport aux objectifs de départ, qu'est-ce que leur présence en ligne leur apportait. Donc c'était la deuxième enquête du même type. J'avais mené cette enquête d'abord en 2017 et je l'ai menée à nouveau en 2020. Et l'objectif était vraiment justement dans le cadre de la formation de mes étudiants de pouvoir leur dire voilà qui se trouve sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'ils cherchent et voilà ce qu'ils obtiennent. Donc ça m'a donné... Ça donne une sorte d'image, là, au printemps 2020, des professionnels de la traduction, de leur présence, pourquoi ils sont là. Et comme toujours, avec ce type d'enquête, on a des surprises. On a des surprises, c'est très, très intéressant.
Dis-je, donnez-moi des exemples de surprises. D'abord, on a tout le temps, on doit quelque part évaluer le temps qu'on passe. En moyenne, combien de temps ceux qui ont répondu estiment passer sur ces réseaux sociaux ou dans ces médias sociaux? Par jour, par
Alors,
semaine?
les traducteurs interrogés, donc 188 répondus, hein, au total à cette enquête. La majorité, c'est-à-dire les trois quarts d'entre eux, passent plus de 5 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui n'est pas rien, quand même. Voilà, plus des trois quarts passent plus de 10 heures. Donc, ça n'est pas rien. Ce qui m'a surpris particulièrement, c'est que au-delà des grands réseaux attendus, comme LinkedIn, voilà, qui est un réseau professionnel très connu, où les traducteurs interrogés sont, excusez-moi, très présents, c'est-à-dire environ 90% d'entre eux, on les trouve aussi beaucoup sur Facebook. Ils ont 80% d'entre eux ont un compte actif sur Facebook, 70% sur Twitter. Et de façon plus surprenante, et il déclare aussi une présence donc professionnelle pour 1 sur 2, donc 50% sur Instagram, par exemple. Et également, il mentionne, parce qu'il y a toujours un débat sur WhatsApp, parce que WhatsApp est un réseau social ou tout simplement un système de messagerie, mais WhatsApp est considéré par eux comme un réseau social et ils sont très présents là-dessus. Donc voilà, ça faisait partie des surprises. Et on constate aussi que certains traducteurs, on dit parfois qu'ils sont détachés du monde de la recherche. Sauf que l'enquête que j'ai menée montre qu'ils s'intéressent aussi à des réseaux sociaux qui sont spécialisés justement dans la recherche, des réseaux privés comme Academia ou ResearchGate, des traducteurs professionnels. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, on dirait quelque chose comme 15%, visiblement, ont un compte actif sur ces réseaux-là et donc s'intéressent à la recherche en traduction et en traductologie. Donc ça fait partie des surprises. Une autre surprise, c'est vraiment cette présence très, très forte en fait de chaque professionnel, puisque en moyenne, chaque professionnel déclare avoir 4,3 comptes sur les réseaux sociaux. Donc on constate une présence de la même personne, du même professionnel, sur différents réseaux. Le même professionnel peut avoir un compte Facebook et une page LinkedIn et un compte Twitter et un compte Instagram. Donc la présence est réelle et une présence très très forte pour des gens qui parfois n'ont même pas un site internet ou un blog. Ce qui veut dire que la présence sur les réseaux sociaux, finalement, est leur seule présence sur le web.
Ces pratiques, quelle est la perception, selon vous, pour ces professionnels de la traduction, globalement ou en moyenne, des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils y voient, bon, un moyen de, enfin, de contact social ou entre des professionnels? Est-ce qu'ils cherchent, au-delà des échanges, éventuellement des clients, des occasions de formation, ou éventuellement, est-ce qu'ils s'en servent, je ne sais pas, comme support pour gérer leur travail? Quelle est véritablement l'image, que vous avez retirée à travers ce questionnaire qui était assez détaillé?
Alors, ce que les professionnels disent, c'est que l'objectif de leur présence sur les réseaux sociaux, c'est une forme d'investissement, en fait. C'est-à-dire qu'un tiers d'entre eux disent que clairement, leur présence sur les réseaux sociaux, c'est un investissement pour trouver des projets de traduction, des offres d'emploi, établir des relations professionnelles. Et un autre tiers, et c'est étroitement lié, explique qu'il s'agit en fait tout simplement de se promouvoir, de se mettre en avant, à la fois soi-même en tant que professionnel, mais la profession aussi elle-même. C'est-à-dire expliquer aux personnes qui sont abonnées à leur compte les métiers de la traduction, comment ça s'exerce, quels sont les enjeux. Donc voilà, c'est les deux réponses principales que j'ai obtenues. Et quand on entre dans le détail, on voit en fait ce que les professionnels viennent chercher sur les réseaux, c'est ils viennent chercher des clients directs, ils viennent chercher des agences de traduction avec qui travailler, des informations sur le secteur de la traduction, mais il y a aussi toute une recherche d'informations qui est liée au développement d'outils, donc au développement technologique, et il y a aussi évidemment la notion d'échange avec les autres professionnels, avec les autres traducteurs, donc la question du réseautage qui est très présente. Et ce qui est très intéressant aussi dans les résultats, c'est qu'entre les attentes des professionnels et ce que véritablement ils obtiennent des réseaux sociaux, finalement, il y a vraiment une forme de convergence. C'est-à-dire que par exemple, quand les traducteurs disent, bon, moi je vais sur un réseau social pour trouver des clients directs, il y en a un sur deux qui répond ça à l'enquête. Quand on leur demande, et au final, est-ce que vous avez trouvé des clients directs? 35% disent oui. Donc voilà, on a quand même, c'est à 35% par rapport aux 50%. Donc voilà, il y a quand même une forme de convergence. Même chose pour tout ce qui est de la découverte de nouveaux outils, de s'informer sur les développements technologiques. 65% des professionnels disent je viens chercher ce type d'information et 65, ces 65% disent et j'obtiens ce genre d'information. Donc il y a aussi l'idée en même temps de se former, c'est-à-dire que il y a plus de 20% des professionnels qui disent moi l'idée c'est aussi de pouvoir me former. Et quand on leur demande et est-ce qu'au final vous avez le sentiment que ces outils-là vous permettent de vous former, les gens répondent oui. Effectivement, ça nous permet de nous former. Les traducteurs qui disent que vraiment, finalement, au final, ça ne leur apporte pas grand-chose, restent extrêmement rares. Donc, ce qui veut dire que l'objectif de départ d'investissement, finalement, il se concrétise. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vraiment pour ça, moi, que j'incite les étudiants, dès le début de leur formation, à développer leur présence en ligne. Parce que justement, ça leur permet de se former, de suivre les nouveautés du marché et de développer leur présence professionnelle, puisqu'on voit qu'au final, quand on est professionnel, ça apporte quelque chose. C'est en tout cas le témoignage qu'on a avec cette enquête qui a été menée encore une fois auprès de 188 professionnels au printemps.
Et alors, est-ce qu'il y en a parmi ces répondants, comme on dit en mauvais français, ceux qui ont répondu, est-ce qu'il y en a qui ont dit, ben non, moi je ne m'en sers pas, je m'en sers pas si ce n'est à titre privé éventuellement. Enfin, est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas qui rentrent pas dans cette sphère-là
Alors,
et qui
très,
rentrent.
très, alors, très, très peu, mais en fait, c'est un peu biaisé parce que, évidemment, moi, l'enquête, je l'ai menée et je l'ai diffusée comment? Par le biais de réseaux sociaux. Donc, les gens qui ont répondu à l'enquête, moi, je l'ai diffusée via LinkedIn, via Twitter, Facebook, etc. Forcément, ont des comptes actifs sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était du coup de savoir, même si tout le monde en a un, est-ce que finalement, c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ou est-ce que ça n'apporte rien? Et en fait, on voit que les réponses où ça ne m'apporte pas grand-chose, finalement, c'est ultra minoritaire. C'est-à-dire que seulement 0,5% des personnes interrogées ont répondu que être sur les réseaux sociaux était une perte de temps. Voilà. Alors, il y en a par contre presque 10% qui disent que Bon, c'est bien, mais ça reste finalement une forme de divertissement, une forme de distraction. Mais voilà, mais on a que 0,5% qui disent que c'est clairement une perte de temps. Comme je disais tout à l'heure, on a un tiers qui considère que c'est un bon investissement, et un bon investissement pour trouver du travail, et un autre tiers, étroitement lié, qui explique que c'est un très bon outil de promotion de son activité, mais aussi des métiers de la traduction en règle générale.
C'est assez impressionnant parce que on a toujours quand même cette idée, alors peut-être que c'est à la DG Traduction en particulier, que les traducteurs sont sous pression de produire, d'aller vite, de produire de la qualité rapidement, et que donc ils sont complètement pris par un travail qui est par ailleurs extrêmement mesuré, bon, facturation, etc. Donc ils investissent dans les réseaux sociaux. C'est une surprise. Parce que le temps quand même qui est consacré est important. Est-ce que vous leur avez demandé si ils recommanderaient ça en position de mentor ou éventuellement de professeur, s'ils recommanderaient ça à d'autres collègues? C'est encore un peu un autre positionnement, oui.
Alors, je n'ai pas posé exactement cette question, mais je leur ai demandé s'ils pensaient que, justement, dans le cadre de la formation de futurs traducteurs, il fallait former les étudiants à une utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Et la réponse est très claire, c'est-à-dire que 43% sont tout à fait d'accord avec cette idée-là et 38% sont d'accord. Donc, voilà, il n'y en a que 0,5% qui disent non, non, ça n'est pas une bonne idée, ça sert à rien. Donc, voilà, j'imagine que s'ils pensent qu'il faut être formé à cette utilisation-là, c'est que clairement, pour eux, il y a une forme d'utilité derrière ça. Que ce n'est pas tout simplement de l'échange qui a une forme d'investissement, parce que comme vous l'avez dit, ça prend du temps d'alimenter, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, il faut aussi pouvoir l'alimenter. Ça prend un peu de temps et on voit que la plupart des traducteurs y consacrent plus de 5 heures et parfois même plus de 10 heures par semaine. C'est que forcément, ils y trouvent une utilité, y compris une utilité, une forme d'investissement financier. C'est que ce que l'on récupère en retour, finalement, est intéressant.
Alors vous, en tant que formateur, donc vous avez identifié cette utilité et ce besoin pour les futurs traducteurs d'intégrer ces moyens-là et de se rendre visible sur Internet, se construire la fameuse e-reputation. Est-ce qu'il y a tout de même, je sais qu'on est dans une période du soupçon, mais enfin, qui n'est pas toujours... Qui n'est pas toujours injustifié, des règles de prudence à respecter. Je crois qu'il ne s'agit pas d'avoir par ailleurs des comptes éclatés, mais il faut aussi coordonner. Mais quelles sont les règles de prudence que vous émettriez, que vous recommanderiez?
Il y a déjà le cadre de la loi à respecter, et ça, justement, dans le cadre d'une formation d'étudiants, il faut leur expliquer que sur les réseaux sociaux, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne peut pas enfreindre la loi. Quand on a signé des accords de confidentialité, évidemment, même si on a un compte anonyme, on ne peut pas diffuser des informations qui sont censées rester confidentielles. Voilà, la loi s'applique. Il faut, voilà, faire attention à ce qu'on fait, puisque notre responsabilité juridique, il y a eu un certain nombre de cas en France et ailleurs, peut être engagée par rapport à des propos que l'on tient sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et puis après, il y a aussi surtout la question de la stratégie. Moi, j'essaie d'inviter mes étudiants à être stratégiques, c'est-à-dire à se présenter de façon professionnelle, donc avec une photo déjà qui est professionnelle, avec la diffusion d'informations très clairement liées au secteur de la traduction, pour qu'ils puissent montrer leur intérêt dans les questions liées à la traduction. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un compte professionnel pour, par exemple, commenter un programme de télé qu'on a regardé le samedi soir. On fait ça avec un compte personnel, pas avec un compte professionnel. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de développer son image de professionnel, que ça serve finalement de vitrine. Pour se positionner comme professionnel du secteur, donc avec une approche cohérente, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir différentes personnalités non plus sur les différents réseaux sociaux. Donc, il faut se présenter sur LinkedIn comme on se présente sur Twitter. L'idée étant que plus on est présent sur ces différents réseaux sociaux, plus on a de chances finalement d'être trouvé soit par un client direct ou par une agence de traduction qui est à la recherche d'un traducteur ou d'une traductrice avec qui travailler. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de développer son identité professionnelle, donc de se débarrasser de toute considération personnelle. Voilà, on ne diffuse pas d'informations personnelles, on ne donne pas son avis sur des tas de choses, mais vraiment, voilà, s'en servir comme outil de communication, comme cela est fait grâce à un site professionnel, par exemple, ou même à un blog avec une approche qui soit cohérente, voilà, on a vraiment l'impression de percevoir l'identité professionnelle de quelqu'un, puisque, bon, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Un client qui cherche un traducteur, bah, c'est comme quand il cherche un plombier, hein. Il va sur Internet, il prend un moteur de recherche et il cherche, et puis il va éventuellement tomber sur des comptes de réseaux sociaux, puisque ceux-ci sont très bien référencés maintenant dans les moteurs de recherche. Vous recherchez des informations, puis vous tombez sur des comptes de réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est quand un client arrive et clique et voit le compte d'un professionnel, bah, qu'il soit attiré par le professionnalisme de cette personne. Donc moi, c'est le type de conseil que je donne, c'est vraiment, voilà, adopter cette posture professionnelle dès le départ avec une approche très cohérente pour se créer une identité sur le web et exister. Voilà, c'est l'idée.
Alors, pas simple quand même, parce que sur Facebook, j'imagine que c'est pas comment séparer les photos du petit junior en confinement de la présentation d'une offre ou de certaines questions qu'on pose, enfin des documents éventuellement qu'on propose et qu'on met en commun, c'est pas forcément très facile. J'imagine qu'il faut avoir deux comptes séparés.
Ça peut être une possibilité, effectivement, d'avoir deux comptes séparés. Voilà, si on veut pouvoir diffuser des informations personnelles et d'un côté être professionnel, c'est une possibilité. Mais souvent, les étudiants, après la formation, puisque c'est une formation d'une demi-journée, alors au début, il y a des petits sourires en général sur les visages, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur les réseaux sociaux? On maîtrise probablement mieux que lui. Et puis au fur et à mesure où on parle effectivement de la présence professionnelle en ligne, où je montre des exemples de professionnels qui ont été parfois poursuivis en justice ou licenciés pour un simple post sur Facebook ou parfois même un like sur Facebook, et on a des exemples. À partir du moment où on rentre dans les questions juridiques, et il y a des cas en France de gens qui ont pu être licenciés pour un like sur Facebook, pour un post qui a été publié. Ça sourit beaucoup moins et ils partent en fin de séance avec l'idée de, bon, si je veux être présent sur les réseaux sociaux, il va falloir que je nettoie un petit peu mes réseaux, les comptes que je suis, ce que j'ai pu diffuser, les photos que j'ai mises en ligne il y a 3 ans ou il y a 4 ans, dont je ne me souviens plus très bien. Voilà, donc l'objectif de la formation, c'est simplement ça, parce que ce n'est pas non plus une formation complète aux réseaux sociaux, ça prendrait beaucoup de temps, mais une sensibilisation à l'importance de l'image que l'on renvoie et de savoir qu'un client potentiel ou une agence de traduction qui voudrait travailler avec vous pourrait tomber sur des choses qui pourraient venir vous discréditer, alors que vous pouvez être très bon professionnel et en même temps, voilà, aimer faire la fête le samedi soir, c'est pas du tout incompatible. Mais peut-être que le futur client ou le client potentiel qui va trouver vos photos de soirée du samedi soir va juger que vous n'êtes pas très bon professionnel parce que vous faites la fête le samedi soir. C'est totalement faux. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'avoir ce genre d'idée. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. On peut vous juger là-dessus, donc débrouillez-vous pour qu'on ne vous juge pas là-dessus et qu'on vous juge uniquement sur des critères professionnels, donc diffuser des informations liées au monde de la traduction, les conférences auxquelles vous assistez, les formations que vous suivez, les outils auxquels vous vous formez, pour qu'un client potentiel soit impressionné quand il tombe sur vos réseaux sociaux et ait envie de vous faire confiance et de vous confier des projets de traduction. C'est ce que font extrêmement bien des tas d'indépendants qui sont présents sur les réseaux sociaux. On apprend énormément de choses en les suivant et on voit comme ça, on assiste au travail de grands professionnels qui ont des tas de choses à nous apprendre, de nouveaux outils. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil très intéressant et ça permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement.
Intéressant, oui, je pense qu'il y a de la substance qui est importante, qui circule hein, sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais peut-être vous interroger d'un autre point de vue, qui est en tant que praticien, vous animez, je crois que vous animez le compte, le site internet et le compte Twitter de l'ALFFIA. UMT, vous allez me dire.
C'est l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction. Est-ce que j'en suis le président? Donc oui, on a un site internet, on a aussi un compte Twitter justement pour être présent sur le web.
Donc allez voir, hein, vous qui écoutez, allez voir le site en question et le compte Twitter.
Et aussi, à côté de ça, enfin, je gère aussi deux blogs. C'est-à-dire, il y a un blog qui est au sein de ma formation qui est alimenté par mes étudiants. Donc, le blog du master TSM de Lille. Et le dernier né, un petit bébé, on a lancé un blog au niveau du réseau EMT, donc de la Commission européenne, qui a vu le jour là en juillet. On en est au septième billet, je pense, qui est alimenté donc par l'ensemble des formations européennes au métier de la traduction, avec un billet en moyenne tous les 15 jours. Donc les billets sont rédigés soit par les responsables des programmes de traduction ou des formateurs, des formatrices dans ces formations, ou éventuellement aussi les étudiants de ces formations.
D'accord. Alors, j'ai quand même cru voir, parce que j'ai été voir ce blog, j'ai même lu les résultats de votre enquête, une réaction, par exemple, de l'université de Rennes. Et une des grandes questions qu'on se pose, peut-être encore plus à l'époque du confinement, c'est s'il y a des réseaux qui se forment, si vous avez même une stratégie pour constituer des réseaux qui puissent permettre éventuellement de partager des formations. On imagine dans un autre monde ménager des mobilités entre les enseignants, les étudiants. On y viendra sans doute un jour prochain. Est-ce que vous sentez qu'il y a des connexions comme ça qui se font? Il y a une réaction de l'université de Rennes.
Oui, bah en fait, on se connaît très bien avec l'université de Rennes, et en fait, il y a un certain nombre d'universités qui sont présentes sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn ou que ce soit Facebook. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça nous permet de voir ce qui se passe dans les autres formations. C'est toujours très intéressant quand une formation organise une conférence, par exemple, ou développe un outil pédagogique particulier et décide de le promouvoir sous les réseaux sous la forme d'un petit billet avec des illustrations. Ça permet vraiment de se tenir au courant de ce qui se fait dans les autres formations, de pouvoir échanger sur ce que les uns et les autres mettent en place. Ça permet des échanges de bonnes pratiques. Donc ça, voilà, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire au-delà de se renseigner sur le monde de la traduction, les formations aussi maintenant sont très présentes sur les différents réseaux sociaux, et ça permet vraiment d'être en contact aussi bien les formateurs que les étudiants d'ailleurs, et de voir ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est très très intéressant de pouvoir voir en direct du coup ce qui se passe dans les différentes formations.
D'accord. Donc, Rennes, vous connaissez aussi beaucoup d'autres universités. Est-ce qu'il y a des universités avec qui en particulier vous avez établi des liens? Je pense soit pour des raisons de ressources linguistiques, enfin, ou alors des échanges d'informations sur les outils en particulier, comme ça pour avoir une géographie.
Alors au niveau de la France, justement, la FUMT vise à ça.
Voilà.
C'est-à-dire, cette fois-ci, je ne vais pas m'en mêler les pinceaux, l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction. On a une vingtaine de formations universitaires françaises au niveau master. Et l'objectif est justement l'échange de bonnes pratiques et le partage, c'est-à-dire voilà les outils que les différentes personnes utilisent, les pratiques pédagogiques mises en place, comment on enseigne par exemple la traduction automatique, ou comment en ce moment en fait on a mis en place un séminaire en ligne une fois par mois où on échange justement sur tous les enjeux liés à l'enseignement à distance, la formation à distance, puisque la plupart d'entre nous et même maintenant tout le monde en France, on enseigne dans les masters de traduction à distance du fait de la crise actuelle. Donc voilà, ce genre de séminaire en ligne permet d'échanger les bonnes pratiques. Donc là, on sort des réseaux sociaux, mais c'est complémentaire en fait, tout simplement.
D'accord, nous avons épuisé notre temps et je dois vous remercier vivement de nous avoir convaincus, je crois, qu'il est important d'avoir une stratégie pour la promotion du métier, de la profession de traducteur et de votre profil en tant que traducteur de manière très professionnelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
et à bientôt, je
À
l'espère.
bientôt, oui.
Au revoir.